Bonjour tout le monde. J'aime beaucoup ta dernière expression, Emmanuel, d'apporter la parole qui nous porte. Ce n'est pas nous qui apportons la parole, mais c'est elle qui nous porte. Donc, merci beaucoup. Et comme pasteur Emmanuel vient de mentionner tantôt, bien, on fait un petit retour sur ce qu'on a vécu ensemble à Montjoly pour le 30e anniversaire. Cette assemblée a tenu à célébrer son Dieu, à le remercier, à lui rendre grâce et lui témoigner son affection et sa reconnaissance pour toutes ces années. Et moi, j'étais béni de voir ça parce que lorsque le peuple de Dieu se rassemble et puis qu'on voit que tous les regards sont fixés sur Jésus-Christ, lorsqu'on voit que toute l'attention est tournée vers lui et sa parole, c'est vraiment un spectacle extraordinaire à voir. Toutes nos conversations étaient alignées sur la même chose. Tout le monde qui était présent parlait aussi de la fidélité de Dieu dans leur vie. Et c'était vraiment agréable de voir ça. Très, très agréable. Le texte que je vous propose aujourd'hui, c'est le même texte que sur lequel qui a été mon motif, non pas pour le commenter de manière textuelle, mais c'est comme le texte qui m'envoie. C'est dans Apocalypse 19, verset 11. Et je lis pour vous, je vais lire la même version que vous. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Seigneur, que ta parole fasse un chemin dans nos cœurs, que nos cœurs soient comme un jardin, afin que cette parole soit semée et récolte des fruits pour ta gloire et pour ta plus grande gloire. Amen. Dieu est un être infini et il est parfait dans tous ses attributs. Des fois, dans nos conversations de tous les jours, on essaye de trouver la qualité principale d'un ami. Ça arrive que des fois, on parle de monsieur, et puis on dit c'est un homme de bien, et puis tout ça. Lorsqu'on s'exprime sur ce qui pourrait, je dis bien, être ma principale qualité, lorsque les gens ont fini de le dire, eh bien, je cours pour les remercier de ne pas avoir souligné ma plus grande faiblesse. Donc. Mais on ne peut pas s'apprêter à faire le même exercice avec Dieu. Il est parfait dans tous ses attributs. Mais quand même, pour le plaisir de l'exercice, je vais vous poser une question. C'est une question un peu « tricky », comme on dit. Je pourrais même dire « illégale », parce que dans tous les attributs de Dieu, selon vous, et il n'y aura pas de mauvaise réponse, quel serait l'attribut de Dieu le plus important, dans le sens que sans cet attribut-là, tous les autres tombent à terre. D'après vous, quel serait l'attribut de Dieu le plus important? Oui, mais son humilité, sa justice, son amour, il ne change pas. Omniprésence. Voilà ma réponse. Dieu est vivant. Sans cela, il n'y a plus rien après. Il existe de par lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui est apparu sur la scène, qui sort du néant quelque part. Il a toujours existé. Il est l'alpha et l'oméga. Et à chaque fois que j'essaye de considérer ça dans mon pauvre cerveau, quelqu'un qui a toujours existé. Laissez-moi vous dire, je deviens fou raisonnablement. C'est inimaginable. On a beau tourner notre cerveau à l'envers pour comprendre cette réalité de Dieu, on n'y approche pas. On n'y approche pas du tout. Il est vivant. Mais cependant, l'Écriture, c'est la fidélité de Dieu que l'Écriture mentionne le plus comme attribut de Dieu. Nul autre attribut de Dieu n'est mentionné autant que sa fidélité, pour nous dire à quel point que cette dernière est merveilleuse. Et en tant qu'homme sur la terre, en tant qu'être humain, eh bien, Jésus-Christ s'est avéré pour nous comme l'incarnation même de la fidélité. C'est son nom. Il s'appelle fidèle et véritable. Il porte son nom. Il porte le nom de son caractère. Il porte le nom de ce qu'il est en lui-même, ce qu'il est dans sa personne. On a beau parler de la fidélité de Dieu qui s'élève jusqu'au nu, mais il fallait voir de nos yeux une image de cette fidélité. Et les hommes ont pu contempler le Seigneur Jésus-Christ de son vivant comme étant un être fidèle. Et ce qui le distingue le plus, c'est qu'il a été fidèle dans un monde rempli de l'infidélité de l'homme, complètement rempli. Les paroles du Seigneur et sa vie étaient toujours en harmonie. Il n'y avait aucune incompatibilité entre ce que le Seigneur disait et entre ce que le Seigneur faisait. Il est fidèle. Et le texte nous dit aussi qu'il est véritable. Parce que pour nous, il est la lumière du monde. Cette lumière-là éclaire tout homme. Tout homme a reçu une parcelle de la lumière de Jésus-Christ. Il est l'expression même de ce que Dieu est véritable. Dans ce qu'on a partagé la semaine dernière, premièrement, Pasteur Clermont, pour nous, est comme une image de la fidélité, comme serviteur. Je bénis vraiment le Seigneur pour cet homme. Lorsque j'ai rencontré cet homme dans son bar, je faisais du piano bar dans un temps très lointain. Je ne savais pas que cet homme-là allait devenir un compagnon dans l'œuvre. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Lui, il venait juste de rencontrer le Seigneur, puis il m'avait demandé de chanter pour lui une chanson qui n'était pas très sexy, « Un jour à la fois ». Mettez-vous à ma place, je viens de faire « Billie Jean » de Michael Jackson. Après, on me demande de faire « Un jour à la fois ». Donc, je lui avais dit que ce n'est pas trop sexy, cette chanson-là. Mais au grand jamais, je penserais que cet homme-là allait devenir un compagnon d'œuvre. Lorsque je l'accompagne en Haïti, il fait maison par maison pour aller encourager ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui sont découragés. Ce que j'ai appris de Pasteur Clermont, il ne laisse jamais les gens repartir les poches vides ou le cœur à vide lorsqu'on vient le voir. En Haïti, tout le monde vient voir Pasteur Clermont. Ils se disent probablement « ce pasteur-là va faire quelque chose pour moi ». Puis Pasteur Clermont ne peut pas prendre le fardeau du tout le pays sur ses épaules. Et lorsque il est à court, tout le temps, je vois, il arrête la personne. Je n'ai pas grand-chose à te donner, mais je veux prier pour toi maintenant. Il ne laisse jamais la personne repartir à vide, ne serait-ce qu'une prière bien sentie. Dans sa ville, Pasteur Clermont, c'est un don de Dieu pour sa ville. Un don de Dieu pour son assemblée. Cet homme a un impact dans la ville. Pasteur Clairvoy l'a mentionné tantôt. Même les autorités municipales respectent cet homme-là. On est vraiment content. Continuez à prier pour lui. Je suis sûr que ce que je dis dans son dos aujourd'hui ne va pas l'enorgueillir, parce que c'est un serviteur qui sert de manière complètement désintéressée. Et dans notre assemblée, il y a aussi des hommes et des femmes de cet acabit aussi. Je ne les nommerai pas, mais ils sont facilement reconnaissables. Je vois que votre... à quelqu'un a m'a volé le show. Je comprends. Ce beau... C'est plus agréable de regarder ce beau bébé que le prédicateur en avant. Mais reconcentrez-vous sur moi. Bon, il fallait qu'on en parle. Donc, je vous présente, mesdames et messieurs, un nouveau membre de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Dominique nous a enseigné sur le fait que Dieu est fidèle à lui-même. C'est-à-dire, il ne peut se renier. Il est fidèle à sa parole. Pasteur Dominique nous a rappelé que l'œuvre de Jésus-Christ, c'était même de venir restaurer nos cœurs à la fidélité de Dieu. Parce que dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Le malin a mis en doute l'intégrité de la fidélité de Dieu en disant, Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres termes, est-ce que Dieu est fiable? Est-ce qu'on peut compter sur lui? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Et nous connaissons le reste de l'histoire. Et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est de restaurer ce que vraiment Dieu est dans nos cœurs. C'est son œuvre la plus importante. Si on est habité par Dieu dans nos cœurs, on a le salut. Si on est habité par le Saint-Esprit, on a le salut. Si vous voyez que la parole de Dieu habite en vous, vous avez le salut. Il ne faut pas en douter. Mais si quelqu'un se demande, mais c'est qui ça l'Esprit Saint? Ben, tu as un problème. Il faut venir nous trouver, on va vous en parler. Donc, c'était bien, mais en passant, c'est seul Dieu qui est fidèle à sa parole. Seul Dieu qui est fidèle en lui-même. Et je vais vous dire quelque chose, ne me lancez pas des tomates pourries. Laissez-moi finir mon point. Dieu ne vous demande même pas à vous autres d'être fidèles envers vous-même. Pourquoi? La dernière fois que j'ai été fidèle à moi-même, tous mes amis ont pris la fuite. Ce n'est pas avantageux pour mes amis d'être fidèle à moi-même. Que Dieu nous accorde d'abord d'être fidèle à lui. Et là, ça va rejaillir, on aura de la cohérence dans notre vie, ça va rejaillir dans nos rapports les uns avec les autres. On va tenir nos promesses, on va garder nos alliances si d'abord on est fidèle au Seigneur. Et ça, c'est très, très important. Parce que l'expression qui dit « je suis fidèle à moi-même », c'est pas toujours avantageux. Une des choses qu'on doit savoir, c'est que le mot « fidélité » est relié au mot « foi ». C'est lorsque l'apôtre Paul, dans Corinthiens 13, 13, nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Bien, la foi est là pour rester. Même lorsque nous serons dans l'éternité bienheureuse, nous allons devoir toujours faire confiance à Dieu. Oui? Écoutez, je vais évoquer des choses à laquelle que je ne crois pas. OK? Qu'est-ce qui nous dit que dans 500 milliards d'années-lumière ou d'années célestes, que Dieu ne tomberait pas en panne? Il n'y a rien qui nous le dit que ça ne peut pas arriver, sauf sa parole. On devra faire confiance à sa parole. On ne peut pas avoir une preuve absolue de cela. Qui peut avoir une preuve absolue que Dieu ne tomberait jamais en défaillance? on devra faire confiance à ce qu'il dit de lui-même, tout le temps. On nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, mais quelle preuve que je peux avoir qu'il est le premier? Ce n'est pas possible. Seulement le premier détient la preuve qu'il est le premier. Les autres devront lui faire confiance. La foi demeure. Même dans l'éternité, on devra lui faire confiance sur ce qu'il dit être. Encore une fois, j'évoque des choses auxquelles que je ne crois pas. Qu'est-ce qui nous dit que tout d'un coup, la personnalité de Dieu va être détraquée, changée? Il n'y a rien qui me dit que tout d'un coup, il change de personnalité. Je devrais faire confiance à la parole pour l'éternité. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'aurai jamais une preuve dans l'absolu. Je devrais toujours lui faire confiance. La foi demeure. L'espérance demeure. Je devrais toujours m'attendre à lui. Même s'il serait dans le ciel, je devrais toujours m'attendre à lui pour son bonheur. La foi demeure. L'espérance demeure. On ne pourra jamais avoir une preuve absolue. Dieu ne se prouve pas. Dieu se fait connaître par révélation. Le genre de preuve, parce que je suis limité par le langage, qu'on pourrait avoir, ce serait une preuve conditionnelle. J'aime les paroles du psalmiste. Dans le psaume 104, verset 33, « Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. » Alors, tant que j'existerai, eh bien, je serai dans la contemplation de celui qui existe. Tant que moi, je vivrai, eh bien, je ferai toujours les louanges de celui qui est vie et source de vie. Remarquez bien, il dit, tant que j'existerai et tant que je vivrai. L'existence et la vie sont reliées ensemble, mais c'est deux choses quand même différentes. Plusieurs choses existent, mais n'ont pas la vie en eux-mêmes. Et c'est pour ça que les païens ont une fausse espérance. Ils ont l'espoir qu'après la mort, ils n'existent plus. Ça, c'est complètement faux. Absolument faux. Mais ceux qui ne seront pas sauvés continueront d'exister, mais ils n'auront pas la vie de Jésus-Christ en eux. Et c'est pour ça, lorsque le psalmiste dit « Tant que j'existerai et tant que je vivrai » dépasse la barrière de sa vie terrestre. Mais il va aussi au-delà par la foi de cette vie en Jésus-Christ. Mais tant que je vivrai, eh bien, je verrai toujours celui qui est source de vie. Et je devrai toujours lui faire confiance. Tant que je vivrai. Donc l'équation est celle-ci. Qui vivra en Christ verra. Et l'apôtre Paul dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je partageais un peu le filon que Dieu m'avait donné pour mon joli la semaine dernière, où ce que je disais, la première chose que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être fidèle à lui. On pourrait penser que c'est la première chose. Non. On pourrait même penser que Dieu pourrait nous dire dans les 10 commandements de l'adorer. Pourtant, ce commandement-là n'est pas là dans les 10 commandements, de l'adorer. On doit adorer Dieu, ça c'est clair. Voici la première chose que Dieu nous demande, c'est d'abord de l'aimer de tout notre cœur. Toutes nos pensées, tout notre intellect, de toute notre force, de toutes nos tripes. Moi, lorsque je confesse à Dieu mes fautes, je ne m'attarde pas trop sur la qualité de la faute ou même sur la moralité de la faute. On est pécheur. Ce que je demande à Dieu, Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir t'aimer de toutes mes forces. Parce que en quelque part, dans mes chutes, il y a une incrédulité quelque part. Et c'est de là que ça part. D'arrêter de croire que Dieu va pouvoir à mon besoin. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vais moi-même y pouvoir à mes besoins selon mes moyens. Et mon Dieu de tout notre cœur. Pourquoi je dis ça vient avant la fidélité? Parce que la fidélité n'est pas une condition à l'amour. La fidélité, c'est la conséquence de l'amour. Puisque j'aime Dieu, je veux lui être fidèle. Parce que la fidélité sans amour, c'est, à un moment donné, ça va devenir lourd. Oui, ça peut créer de l'amertume, de la frustration. On respire lourd. C'est ça que ça fait, la fidélité sans amour. Et l'amour sans la fidélité, tel que le monde nous le propose, ça amène à la destruction. Ça amène à la violence. Ça amène à l'égoïsme pur. Ça brise des familles. Ça fait qu'il y a des enfants qui ont leurs parents, mais qui se sentent orphelins. Ça détruit un pays. Complètement. Ça peut paraître un peu exagéré de dire que ça détruit un pays. Écoutez, M. Bousseau n'a pas ce texte-là. Je vais partager un texte qui m'a toujours frappé. Regardez ce que ce texte dit. C'est dans Jérémie 3, verset 1. Je lis pour vous. Jérémie 3, verset 1. Il dit, « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle ?» Regardez la conséquence. « Le pays même ne serait-il pas souillé ?» On parle de si un homme et on termine par le pays. Ça fait boule de neige. Ici, on parle d'un genre d'histoire d'amour sans aucun engagement, sans aucune redevance, sans aucune repentance pour revenir vers l'autre. C'est une abomination devant l'Éternel. Ça souille même un pays. Si un homme, parce que ça va faire boule de neige. Dieu cherche auprès des hommes aussi la fidélité. J'aimerais partager un texte que j'ai partagé l'autre jour. Ça se trouve sur Apocalypse, je pense que c'est 2. Je l'avais noté un peu. Verset 13, le deuxième texte de l'Apocalypse. Qui va vous parler de Antipas. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu ne m'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à l'église de Pergame. Pergame qui veut dire complètement marié. Mais c'est un mariage qui est triste, où ce que les chrétiens avaient épousé les valeurs du monde. Les chrétiens recherchaient plus l'amitié et l'amour du monde qu'à rendre un témoignage clair sur le Christ crucifié. Pergame, c'était une ville qui était riche, prospère. C'était un genre de quartier général pour les lieux occultes. C'est dans un lieu comme ça qui est la demeure de Satan, c'est-à-dire, ce n'est pas un club med, ce n'est pas un club de vacances. C'est là que cet homme nommé Antipas, son nom qui veut dire contre tous, va garder la foi. Et lorsque son nom qui veut dire contre tous, probablement ses amis l'avaient abandonné. Parce que lorsqu'on fraternise avec les valeurs du monde, eh bien, on ne va pas combattre avec celui qui combat dans la foi. Là où Satan demeure, là où il y a le plus d'opposition, là où c'est périlleux, ce gars-là était comme une lumière et marchait fidèlement au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur lui appelle « mon témoin fidèle ». Il y a une intimité ici, il y a une proximité ici. Nous partageons, on a beaucoup de points en commun en tant qu'enfant de Dieu, mais il y a des points qui sont exclusifs entre le Seigneur et toi. Le Seigneur donne cette appréciation à Antipas, mon témoin fidèle. Quelle appréciation qu'il ferait à chacun de nous. C'est l'apothéose d'entendre ça de la bouche du Seigneur. Bon et fidèle serviteur. Je ne parle pas ici d'être bon lorsqu'on dit « lui est bon là-dedans » et puis ce n'est pas du tout cela. Là. On peut même être bon dans quelque chose et ne pas être fidèle. Quelqu'un pourrait dire « moi je suis bon dans la musique, mais ne comptez pas sur moi ». Ici, le bon et fidèle serviteur, c'est celui qui a fait preuve de bonté dans le service. Il a été bon envers les autres. Il a été généreux de sa personne. Il a été généreux de son temps. Et il a été fidèle dans le service. Un serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui est toujours là à son poste. Et ça devient un phénomène de plus en plus rare. Quelle appréciation que le Seigneur fera à chacun de nous. Pourra-t-il dire « mon témoin fidèle » ? Je l'espère. Je l'espère pour chacun de nous. Et il dit « viens, tu as été fidèle dans les petites choses, tu vas entrer dans ma joie, tu vas avoir l'opportunité de me servir encore de plus près. Je vais te confier maintenant de grandes choses puisque tu as été fidèle dans les petites choses. » Mais si quelqu'un, au cours de sa vie, a dit « Ah, moi, je suis trop grand pour ces petites choses-là. Là, donnez-moi quelque chose à ma hauteur. » Eh bien, le Seigneur lui dira « Maintenant, c'est toi qui es trop petit pour les grandes choses que j'ai à confier. » Et ça, l'équation. Quelle que soit la tâche que le Seigneur vous demande, la noblesse n'est pas dans ce que vous faites. La noblesse est du fait pour qui je le fais. Il n'y a rien qui pourrait me rendre noble aux yeux des gens de délasser les courroies du Seigneur. Pour moi, ce serait un grand honneur. Et je n'en reviens pas. Il m'a demandé de délasser ses souliers. Et les boys, il m'a demandé ça. Délasser la courroie de ses souliers. Waouh! Oui, pour moi, ce serait un grand honneur. Pourquoi? Ce sont les souliers du Seigneur. Ce n'est pas le fait de le délasser, il n'y a rien là-dedans. Là. C'est un geste insignifiant, ça. Mais ces souliers-là, ce sont les souliers du Seigneur et c'est pour lui que je rends ce service insignifiant. Eh bien, je suis heureux. Est-ce qu'on réalise lorsque le Seigneur, aujourd'hui, nous demande plus que de délasser les courroies de ses souliers? Il nous demande plus que ça aujourd'hui. Écoutez, de partager sa parole, c'est plus que de délasser la courroie de ses souliers, là. On doit entrer en toute humilité là-dedans. On doit lui dire merci, 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 merci. C'est pour ça que j'avais apprécié les paroles de M. Jean Houlan. Il disait « La reconnaissance améliore les relations. De dire merci à un frère pour sa fidélité à nous servir le café. Prends le temps de le remercier, ça améliore les relations. Cette ville qu'on appelle Pergame, ou cette assemblée, excusez-moi, comme vous pouvez l'entendre, il y avait des hommes qui s'étaient accaparés de la doctrine pour l'utiliser à leur fin. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il apparaît avec une épée aiguë et tranchante. C'est sa parole qui va trancher, sa parole va juger, et il va aller de sévères paroles pour cette assemblée. Ce n'est pas la saison des paroles douces. Parce que lorsque les chrétiens se laissent aller, les gens de Pergame se sont laissés aller aux valeurs du monde. Ce n'est pas des paroles douces qu'ils ont eues pour, du Seigneur. C'était des paroles très, très sévères. C'est une épée qui sortait de sa bouche, un jugement. Antipas, fidèle dans la demeure de Satan. Aujourd'hui, la planète entière, temporairement, est la demeure de Satan. Oui, il y a d'autres textes qui le disent de d'autres manières. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies, c'est de dire, je vais m'accaparer dans vos cœurs et ce serait Dieu qui habitera là par son esprit. Nous sommes appelés dans cette grande synagogue de Satan à garder, à être fidèles envers Dieu pour être une lumière utilisée par Dieu pour sa gloire. Nous pouvons nous inspirer de Antipas. Ce ne sera pas facile, mais Dieu est là, il va nous soutenir. Nous pouvons lui faire confiance. Donc, l'appréciation de notre Seigneur, mon témoin fidèle, ce qu'il va dire de nous va être complètement différent de ce que le monde disait de nous. Ce que notre entourage disait de nous, ça va être complètement différent. Mais c'est sa parole qui tiendra. La terre entière aussi est appelée à marcher dans la fidélité. Mais le péché est venu comme un grand obstacle. Regardez ce que la parole de Dieu écrit dans Isaïe 26, verset 2. Isaïe 26, verset 2. Et je vais le lire pour vous. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. On parle d'une nation juste qui marche dans la justice et qui marche dans la fidélité. Est-ce que vous pouvez imaginer l'impact que ça pourrait avoir? C'est l'appel que Dieu avait fait sur son peuple, Israël. Mais Israël n'a pas marché dans la justice et dans la fidélité. Mais il y a une nation qui est appelée quand même à le faire. Aucune nation présentement dans le monde marche dans la justice et dans la fidélité. Mais la nation qui est appelée à le faire, c'est la nation dont l'apôtre Pierre dit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. » Une nation sanctifiée, une nation sainte. Et cette nation est l'Église. Et l'Église est appelée à marcher dans la justice et dans la fidélité. Parce que Dieu est comme cela. Le texte qu'on a lu ce matin nous dit que il combat avec justice, il juge avec justice et vérité. Remarquez bien, on dit qu'il s'appelle fidèle et véritable, et après ça, on dit il combat, il juge. Ici, fidèle et véritable, ce n'est pas pour manifester la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour manifester son jugement ici. Ses jugements seront faits sur la base de sa fidélité. Ses combats sont faits sur la base de sa fidélité. C'est un puissant guerrier qui s'est engagé au combat pour nous. C'est un engagement du Seigneur. Nous, on peut aller au combat tout simplement parce qu'on nous a attaqués, puis on est mal pris. Puis je ne voulais pas faire la guerre, mais on tire des balles dans ma maison, ben, je sors mon pistolet. Mais lui, ce n'est pas ça, c'est un engagement. Vous avez des combats présentement que vous menez dans votre vie de toutes sortes de manières. Vous pouvez compter sur la fidélité de Dieu pour avoir la victoire là-dessus. David l'a fait contre Goliath. Tout le monde était apeuré devant ce géant-là. Mais il avance pas par témérité. Il dit, Dieu est fidèle. On est capable de le vaincre. Dieu est fidèle. Sur la base de la fidélité de Dieu, il avance et il va au combat. Dieu va être au milieu de nos combats. Il faut compter, il faut vraiment croire. Des fois, on va avoir l'impression qu'il nous a abandonnés, pas du tout. Au milieu de nos détresses, c'est lui qui va nous porter, c'est lui qui combat pour nous. Et il combat au nom de sa fidélité. Il juge sur la base de sa fidélité. Et nous pouvons compter sur lui. À tout jamais. Vraiment, à tout jamais. La fidélité est la ceinture à ses flancs, nous dit Isaïe. Sa fidélité s'élève jusqu'au nu, c'est-à-dire jusqu'au nuage, c'est-à-dire on ne trouve pas les sommets de sa fidélité. On ne peut pas mesurer les dimensions de sa fidélité. Sa fidélité s'établit jusque dans les cieux. C'est cet ami-là qu'on a en Jésus-Christ. Peut-être un jour, ça peut arriver que vos amis vous abandonnent pour X raisons. Ça fait mal lorsque tu as des amis que tu aimes, mais qui t'abandonnent. Des fois, ta vie peut ressembler à un désert. Tu as l'impression de marcher dans un désert. Même que tu peux avoir l'impression que c'est ma vie qui est le désert. J'ai été abandonné. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est cet ami qui ne nous abandonnera jamais, fidèle à répondre à nos cris. Jamais il ne nous abandonnera. Je disais l'autre jour, la terre est devenue comme une vallée géante de la mort. La vallée de la mort, ce n'était pas la mort, c'était un lieu où lorsqu'une brebis s'égarait là, c'était fini pour lui. On ne se donnait pas la peine d'aller aller chercher. Les prédateurs allaient le manger tout cuit. Et lorsqu'on est né sur cette terre, on est né quasiment dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort nous environne partout. Tout partout, à chaque seconde sur la terre, il y a quelqu'un qui meurt, de toutes sortes de façons. On le rencontre partout, partout, partout. C'est comme si on vient au monde et puis on fait une game de baseball. Je finis avec ça. On se présente au bat, on a déjà deux prises contre nous. Puis Satan, c'est le gérant de l'autre équipe, il envoie son as au monticule. Lui, chaque lancer qu'il fait, c'est une prise qu'il lance. Puis tu te présentes. Le gérant maintenant de mon équipe, il lève la main. Il dit, Pierre, assis-toi sur le banc. Je vais te remplacer par un frappeur suppléant. Son nom, c'est Jésus-Christ. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire de se lancer. Et c'est ça, la Bible nous dit. La mort n'a plus de prise sur nous. Son emprise n'est plus grâce à notre frappeur suppléant qui a pris notre place à la croix jusqu'au bout. Amen. Okay. Puis dites pas que Pierre Véhiquin joue du baseball spirituel, là. Okay?